Bonjour à toutes et à tous. Nous vivons dans un monde en lui beaucoup de paradoxes. On vit dans des différentes choses parallèles. D'une part, nous sommes des gens croyants, en tout cas, moi, pas mal de gens aussi. On croit en Dieu, on croit beaucoup de choses. Donc, quand on croit en Dieu, ça change la vision de la vie par rapport à beaucoup de choses. Mais d'une autre part, on vit une vie matérielle que parfois on a un petit peu une petite paradoxe entre les deux notions. D'une part, la foi remplit des idées où, si j'ai un problème, par exemple, je prie à Dieu, j'espère que les choses s'arrangent. D'une autre part, on essaie de l'arranger d'une façon matérielle. Il ne faut pas, quelque part, compter sur Dieu. Comment ça marche? On compte sur Dieu, on ne compte pas sur Dieu. Et on a un problème médical, on va chez le médecin. Pas seulement qu'on va comme ça, on se baigne là-dedans. Il faut faire ce qu'il faut faire dans tous les domaines de la vie. Il faut faire ce qu'il faut faire. Mais d'une autre part, les gens croyants, si on peut dire comme ça, ils ont un problème. Ils parlent à Dieu, ils prient en Dieu. Nous, on prie 3 fois par jour. On croit bien que le fait que je prie, ça va changer les données. Alors, si on peut croire, mais à ce moment-là, on ne fait pas les choses comme une fois d'une façon naturelle, ou bien on fait les choses d'une façon naturelle, et d'une autre part, on croit. Alors, parfois, on ne sait pas où donner la tête, jusqu'où je crois, à partir de quand je prends les choses en main. Et je fais moi-même les choses. En tout cas, comprendre de façon générale. C'est vrai que même en français ou d'autres langues, il y a cette expression, aide-toi et le ciel t'aidera. Et donc, on connaît la part de l'homme et la part de Dieu. Et d'ailleurs, même la prière, elle est basée sur cette idée que même lorsque Dieu il nous aide tout le temps, mais en fait, même quand on parle de l'aide de Dieu, de tout ce que Dieu il fait, mais c'est quand même lié avec la participation de l'homme. C'est comme ça que Dieu il a créé le monde, que l'homme est important, l'homme il doit participer. Jusqu'où il va participer, c'est une autre question. Parfois il doit participer beaucoup, parfois on attend de lui qu'il fasse énormément de choses. Parfois, il y a comme cette expression ainsi, qu'il met au moins sa petite doigt et les choses s'arrangent. Il y a une histoire de Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov, c'était un fondateur, le fondateur, ou bien un, celui qui a. Il y avait, ça existait déjà avant lui, mais d'une façon comme on le connaît aujourd'hui, c'est le fondateur de la Chassidoute générale. Ensuite, il y a le chassidut, différents chassidut, mais lui, il était le fondateur de la chassidut générale. Que lui, il a vécu dans une période, donc 300 ans en arrière. Et lui, il a vécu dans une période où, d'une part, les gens étaient très croyants et très religieux, mais d'une autre part, c'était une période difficile après des pogroms. Et la communauté était très, très touchée dans ces régions d'Ukraine ou. Ça changeait un petit peu, mais de ce programme. Et donc, alors, ça touchait un peu la foi. Ça veut dire que les gens restaient très croyants, mais il y a un grand mais. Donc, le Baal Shem Tov est venu dans cette période, c'était un petit peu plus, quelques dizaines d'années après, mais il a beaucoup travaillé sur à flammer, ou bien faire revivre la foi. Il y a beaucoup d'histoires de Baal Shem Tov, et parfois d'histoires comme ça, parfois des miracles de Baal Shem Tov, qui est comment il a enflammé la foi qui existait de toute façon, mais parfois il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a des problèmes. Donc au début, il allait d'un endroit à l'autre pour encourager, pour dire des mots, et il arrivait à changer l'esprit. Ensuite, c'était ses élèves. Il a créé toute une armée de gens qui vont, sans dire, à l'époque, on n'était pas au courant de ce qui se passe partout dans le monde. Donc, les Juifs étaient toujours hésitants devant quelque chose de nouveau. Donc, il a envoyé des gens partout, ils ont enflammé, ils ont raconté, ils ont en tout cas renforcé la foi partout sans dire ils font partie d'un mouvement, tout simplement, le juif qui croyait qu'ils ont. C'était des juifs de très haut niveau, d'une part, de très haut niveau de connaissance et d'autres, mais en même temps, dans les petits villages et villes où habitaient les gens qui n'ont pas eu accès à toutes ces connaissances. Donc, ils ont aidé à remonter le moral et remonter aussi la foi. Alors, on raconte sur lui différentes choses, mais une chose qu'on raconte, qu'il a beaucoup aidé les gens physiquement, matériellement. Et une fois, il allait voir, avec ses élèves, il allait voir un homme très riche parce qu'à cette époque, il y avait quelqu'un qui était en prison, ou bien c'était un autre but que je ne me rappelle pas. Il faudrait absolument aider telle et telle personne qui était dans les difficultés. Donc, il allait voir un homme riche, il a tapé à la porte, ou même c'était, il me semble, sur la fenêtre, il est parti. Et les élèves lui ont posé la question, mais on ne comprend pas. Si vous avez besoin de quelque chose, c'est pour ça que vous tapez sur la porte ou sur la fenêtre de telle maison. À pourquoi vous continuez votre chemin? Alors il a dit effectivement, cette personne, il a ouvert, il a vu que le Baal Shem Tov est parti, donc il a couru derrière, il a dit qu'est-ce que vous avez besoin? Le Baal Shem Tov lui a dit ce qu'il a besoin et lui a donné avec un grand plaisir. Mais donc les élèves, ils ont posé la question. On ne comprend pas. Si vous voulez quelque chose, alors restez quand on vous répond. Et si vous voulez, vous avez rien besoin, pourquoi vous avez tapé sur la porte, sur la fenêtre? Alors il a dit, normalement, tout vient de là-haut, tout vient du ciel. Seulement qu'il a manqué, comme il a manqué dans la Torah, cette phrase de Ouverachecha Hashem Elokecha b'chol asher ta'aseh, Dieu il va te bénir dans ce que tu fais, dans tout ce que tu fais. Donc il faut faire, même la bénédiction de Dieu, elle arrive par rapport à ce qu'on fait. Il faut faire, à ce moment-là, il y a une bénédiction. L'exemple qu'on donne, c'est que si quelqu'un il prépare la terre, il laboure, il sème, à ce moment-là, il peut attendre la bénédiction divine. Mais si il fait rien, il attend qu'il y aura une bénédiction divine, la bénédiction arrive, mais la bénédiction elle s'installe sur un acte. Donc, revenons au Baal Shem Tov, il disait que puisque donc chacun lui demande de l'effort qui correspond à lui. Il y a des gens qui doivent faire beaucoup d'efforts pour des résultats, et il y a des gens que pour eux, on leur demande de faire un petit effort. Donc moi, je sais que moi, je devrais faire ce petit effort pour pouvoir avoir accédé à cette somme d'argent pour sauver telle et telle personne. Je devrais faire un effort, mais un petit effort. C'est pour ça que je tapais à la porte. Je savais qu'une fois que je tapais à la porte, la personne vient vers moi. Pour les autres, ça ne marche pas. Pour les autres, parfois, il faut faire beaucoup d'efforts pour avoir des résultats. Pourquoi? On ne sait pas toujours pourquoi, mais on le voit dans la vie quotidienne, qu'il y a des gens qui font beaucoup d'efforts, ils ont des résultats grands ou petits, mais il y a des gens qui font des petits efforts, ils ont des résultats. Dieu, il sait exactement pourquoi et comment, mais nous, l'idée en tout cas, c'est que l'homme, il doit participer, il doit faire l'effort, il doit travailler. Et ensuite, il va attendre le résultat de là-haut. Alors, ça tombe bien avec notre paracha. Cette paracha, il a marqué quelque chose, oui, mais quelque chose que je n'ai pas encore dit, alors on va arriver à cette paracha. Nous, on a parlé au niveau d'efforts matériels. Ça veut dire qu'au niveau matériel, physique, il faut faire tel et tel travail, et donc il faut espérer tel et tel résultat. Mais au niveau spirituel aussi, ça veut dire qu'on croit que lorsque on est bon au niveau spirituel, la bénédiction divine, elle est beaucoup plus importante que lorsqu'on a, on fait pas cet effort spirituel. Et c'est marqué clairement dans notre paracha, la deuxième, puisque cette semaine on va lire deux parachiotes. Dans la seconde paracha, il est marqué Si vous allez écouter, si vous allez marcher dans mes lois et vous allez garder mes lois, il y a des différentes manières de dire loi, il y a une raison bien sûr, alors à ce moment-là, il est marqué la pluie va tomber en bon moment, etc., etc. Il y a des bénédictions relatives et des vraies bénédictions. Ça veut dire qu'il y a des relatives, ça veut dire qu'on va donner une bénédiction, mais la bénédiction, elle est bien relative. Ça veut dire, à un moment donné, on parle de la paix, mais il y a un moment dans cette paracha où on parle d'une bénédiction relative. Ça veut dire que vous allez gagner la guerre. Ça veut dire qu'il y aura une guerre. Mais vous allez gagner la guerre d'une façon extraordinaire, vous allez gagner la guerre. Mais ce n'est pas ça le vrai paix qu'on attend. On attend qu'il n'y aura pas la guerre. Donc, alors, la paix est. Parfois, la paix est relative. Et parfois, la paix est. Bien, elle est grandiose, elle est large, il n'y a pas d'ennemis. Donc on n'a pas besoin, c'est le vrai pas. Il y a des paix relatives, que l'ennemi, ils ont peur, donc ils ne commencent pas, mais ils restent ennemis. Mais bien sûr que ce n'est pas ça qu'on attend. On attend qu'il n'y aura plus d'ennemis, donc qu'il y aura le vrai paix. Donc dans ce début de la paracha, on parle de différents bénédictions, il y a des bénédictions qui sont bénédictions mais relatives par rapport à nos bénédictions, c'est une bénédiction, mais il y a des bénédictions qui sont très larges au niveau matériel, au niveau financier, au niveau de paix, comme on a dit, comme il est marqué qu'il n'y aura plus d'épée qui va passer dans votre terre. Donc ça, c'est une notion de paix beaucoup plus fort qu'une paix relative. Et donc, on trouve dans cette paracha que la paracha, parfois, elle nous parle d'une bénédiction relative et parfois, elle nous parle d'une bénédiction absolue. Et selon nos sages, ça dépend aussi de nos comportements. Donc, comme il est marqué dans cette paracha, si vous allez vous comporter bien, il y aura des bénédictions, mais si les comportements, ils vont être extrêmement bien, comme il est marqué, et on explique pourquoi c'est extrêmement bien, ça veut dire non seulement qu'on fait quelque chose, mais on le fait bien. Alors à ce moment-là aussi, la bénédiction, elle n'est pas relative, elle est une bénédiction absolue. Et on dit que c'est souvent lié avec l'esprit messianique, où à ce moment-là, la bénédiction et le bien ne vont pas être un bien relatif, ça va être un bien absolu, le monde va être un monde de bien. Maintenant, donc, alors, on a dit qu'il y a deux logiques ici. Quand quelqu'un il a un problème, comment on traite les problèmes? D'une part, on traite les choses au niveau matériel, et parfois, ça marche mieux, parfois, ça marche moins bien, mais en tout cas, on les traite normalement, chaque problème, on les traite au niveau matériel. Mais à côté de ça, il y a une vie spirituelle où on traite les problèmes au niveau spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on va faire ce qu'il faut, ce que Dieu nous demande, à ce moment-là, il n'y aura pas de problème médical, par exemple. Alors à ce moment-là, si on a un problème médical, on les règle au niveau spirituel, on règle au niveau matériel, comment ça marche. Et c'est vrai que c'est pas très clair comment ça marche. Et ça dépend de beaucoup de choses. Mais en tout cas, ça, ça dépend aussi des périodes. Il y a ici dans cette paracha, donc il est marqué que si vous allez faire votre devoir comme il faut, à ce moment-là, Dieu il promet qu'il va nous donner beaucoup de bénédictions. Maintenant, comme on a dit, on n'est pas dans cette période où on est vraiment bien. Parce que on fait les choses, mais d'une façon relative. Mais il y aura une période où cette bénédiction va se réaliser à fond. Donc nous, on va être des gens bien. Et donc, Dieu aussi va se comporter avec nous d'une façon bien. C'est là, le Maïmonide, il y a d'autres opinions dans le Talmud, que ce qu'il marque ici, ce n'est pas forcément ce qu'il faut attendre. Ça veut dire, s'il est marqué ici que si vous allez faire vos devoirs spirituels, vous allez avoir une vie saine au niveau matérielle, c'est pas forcément comme ça qu'il faut comprendre. Dans certains domaines, oui, dans certains domaines, non. À tel point qu'il y a donc des discussions par rapport à ça. Est-ce que la Torah nous parle de biens matériels ou de biens spirituels? Mais en tout cas, il y a des discussions par rapport à ça. Et c'est vrai aussi que selon les Maïmonides, pas forcément, il faut attendre, lorsqu'on fait quelque chose de bien, il ne faut pas attendre un résultat immédiat et spirituel. Il y a ce qui veut dire que ça dépend de la collectivité. Ça veut dire que ce qui est marqué dans la Torah, que lorsque vous allez faire le bien, vous allez avoir un résultat spirituel et matériel. C'est au niveau collectif, mais pas forcément au niveau individuel. Mais en tout cas, c'est un grand drame. Est-ce que quelqu'un qui fait des biens, il attend un retour ou non? C'était une grande discussion depuis des générations. Mais aujourd'hui, on a changé notre vision. Pas parce qu'on a changé la vision, parce que le monde change. Et aussi, la relation Dieu et nous a changé. En tout cas, dans notre génération, le rabbi, il a beaucoup encouragé cette notion à réparer les choses au niveau spirituel et pour entendre, en tout cas pour atteindre un résultat matériel. Par exemple, aujourd'hui, c'est connu partout que quand quelqu'un il a un problème matériel, au niveau santé ou d'autres niveaux, alors il va vérifier cette mezuzot. Chaque maison juive, chaque porte qui doit, il y a des portes qui doivent avoir des mezuzahs ou non, mais chaque maison juive, normalement, elle a une mezuzah, il y a une manière comment faire, comment écrire. Mais ces mezuzot, ils sont sensibles, il y a des raisons pourquoi parfois il y a des lettres qui sont effacées. Moi, j'ai vu très récemment chez moi, donc des mezuzot que j'ai depuis des années, mais il y avait plus qui étaient. Ils ont eu un problème, certains je devrais la changer, certains on a corrigé, il y a certains qu'on n'a pas pu corriger. Mais en tout cas, ça c'est un résultat aujourd'hui dans notre génération que la Bible nous a éduqué, que lorsqu'on a un problème, alors on va vérifier au niveau spirituel, y compris, surtout, la mezouza qu'elle est censée être notre gardien. Sur la mezouza, il y a trois lettres. Shin Dal et Yud, que c'est le nom de Dieu, mais aussi c'est les initiales des mots, Shomer d'Altot Israël, celui qui garde les maisons d'Israël. Donc alors, aujourd'hui, on a cette habitude, même si c'est ancien, cette idée, mais dans les générations d'avant, alors tout d'abord, comme disait le Maïmonide, il ne faut pas faire le lien entre matériel et spirituel, c'est deux vies parallèles, toi tu fais ton travail spirituel, tu n'attends pas de résultats, et il n'y a pas forcément de résultats. Mais aujourd'hui, dans notre vie, il y a des résultats. On les voit beaucoup dans beaucoup de domaines. Parfois, il faut corriger telle chose, parfois il faut corriger telle chose, mais quelque chose que tout le monde va faire tout de suite quand il y a un souci important, on va vérifier cette filine et ces mezuzot. Et on trouve des choses très intéressantes, que parfois les mots manquants, ou bien la lettre manquante, ou bien la lettre qui est déchirée, ou bien d'autres choses, correspondent à ce que se passe à l'homme. C'est des choses que vous pouvez vérifier aujourd'hui sur Internet, certainement. Il y a beaucoup d'histoires, mais c'est intéressant qu'aujourd'hui, on lit notre vie matérielle avec la vie spirituelle, parce qu'on est à la veille de cette période où ça va se réaliser. Les deux notions qui vont se rejoindre, la vie matérielle et la vie spirituelle. Ce qui est marqué dans notre parasha, que ça n'était pas visible pendant des générations, et aujourd'hui, c'est plus visible, même si ce n'est pas encore ça, mais c'est plus visible. Il y a beaucoup d'histoires que quelqu'un qui avait un problème, il allait vérifier les mezuzot, il avait un problème médical au niveau du cœur, et il y avait un problème dans les mots qui parlent du cœur. C'est intéressant de chercher sur Internet, certainement que vous allez trouver des exemples intéressants. Donc alors, ce qui est marqué dans la paracha, c'est que pendant très longtemps, on n'a pas forcément changé notre vie spirituelle pour avoir des résultats matériels. Aujourd'hui, ça rentrait dans l'esprit. Oui, il faut aller chez le médecin. Oui, il faut faire le nécessaire au niveau matériel. Oui, il faut faire le commerce. Il ne faut pas, quelque part, en tant que Dieu, il intervient. Mais après tout, on sait qu'après tout l'effort que je fais, c'est Dieu qui intervient dans mes efforts. Et c'est comme ça que ça marche. Donc, alors, c'est une paradoxe, mais en vérité, c'est comme ça que ça marche. Nous, on fait l'effort. À ce moment-là, Dieu, il intervient. La question est combien d'efforts il faut faire et combien Dieu, il intervient. Et ça, c'est déjà un autre sujet. Maintenant, puisqu'on est quand même dans quelques jours qui suivent le grand jour de Lag BaOmer. Lag BaOmer, c'est un jour, c'est pas une fête qu'il manquait dans la Torah. C'est tout simplement le jour. Alors, en vérité, il y a plusieurs choses, mais ce qu'on va se baser maintenant, c'est tout simplement le jour de décès d'un grand sage qui s'appelait Rabbi Shimon Bar Yochai. Et on l'appelle en initiale de ses mots Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc lui, il a demandé. C'était celui qui a révélé la Kabbale, les Zohar surtout, et qu'est-ce que c'est la Kabbale? C'est quelque chose qui nous révèle une autre vision de notre vie même. Tout à l'heure, j'étais en route, je passais par des champs où il y avait beaucoup de vaches. Et je pensais au fait qu'ils vivent une vie parallèle par rapport à nous. Eux, ils ont leur vie, et ils croient à ce qu'ils croient, s'ils croient. Mais en tout cas, ils pensent ce qu'ils pensent, et nous, on a notre vie, on sait, on connaît notre réalité. Notre réalité, c'est pas leur réalité, c'est pas notre réalité. On vit carrément dans le même monde, mais avec une vie parallèle. Peut-être je vais rajouter quelque chose que je trouve intéressant, que c'était un parabole qui était donné par le Rabbi Rachab, le cinquième Rabbi de Chabad. Il voulait montrer comment on vit parfois dans le même monde, mais en parallèle, trois personnes font la même chose, mais chacun a sa pensée qui est carrément différente. Donc, à l'époque, les gens voyageaient sur des charrettes avec des chevaux. Alors, il dit qu'il y a trois sortes de gens, trois sortes d'êtres qui voyagent. Il y avait les sages, scientifiques, ou dans d'autres domaines, ils ont été sages, qu'ils allaient voyager dans un endroit très éloigné. Donc, pour ça, ils ont eu besoin d'une charrette, un cocher et des chevaux pour pouvoir faire la route. Donc, alors, il y a trois qui font la route. Il y a les sages, il y a le cocher, et il y a les chevaux ou le cheval. Pourquoi ils font la route? Quel est leur but de leur route? Alors, il dit comme ça que les sages, ils savent que dans telle ville où ils vont, il y aura une grande réunion de sages qui traitent le même sujet qu'eux. Et ils vont, à partir de là, comprendre ce qu'ils n'ont pas compris. Chacun, avec ses expériences, il va éclairer. Donc, alors, leur but, c'est enseigner et apprendre et approfondir dans le sujet, dans certains sujets. Donc, c'est ça le but de leur voyage. Si vous allez demander au cocher pourquoi, quel est le but de votre voyage, c'est pour gagner de l'argent. Il a besoin de gagner quelques roubles. Donc c'est pour ça que pour lui, qu'est-ce qu'il voit dans ses voyages? Il voit les roubles. Et pourquoi, si vous allez demander aux chevaux pourquoi eux ils parlent, eux ils savent, en fait, comme ça on dit, qu'à la fin du voyage, ils vont avoir un bon repas, en fait, une bonne nourriture. Donc leur but est différent. Alors il y a trois pensées. Pour les chevaux, leur but dans la vie, c'est manger ce qu'ils vont manger. Donc pour eux, le voyage, les sages qui se trouvent sur les charrettes, c'est un détail. Ça ne les intéresse pas. Ça n'existait pas dans leur vie. Dans leur vie, il y a leur but. C'est quoi leur but? C'est la nourriture qu'ils vont recevoir là-bas, ou que certains appellent les carottes. Il y a pour les sages, et pour le cocher, lui aussi, il s'intéresse pas à la vie scientifique, s'ils vont décider comme ci ou comme ça. Pour lui, il doit nourrir la famille. Donc, il doit, si ça va être dans telle ville, s'ils vont parler scientifique ou ils vont parler cinéma, ça l'intéresse pas du tout, absolument pas. Lui, il a sa vie. Et en tout cas, les sages, leur vie, leur but est différent, l'idée scientifique. Donc, il y a trois qui voyagent dans le même voyage, mais chacun il a un autre but dans cette voyage, dans ce voyage. Là aussi, on est dans un monde que on a des différentes visions. Nous, par rapport aux animaux, on a des visions carrément différentes. C'est pas le même monde, c'est pas le même but, et pourtant, on se trouve dans le même endroit. Et là aussi, il peut y avoir des gens qui ils ont une vision de la vie, ou bien une autre vision de la vie, que c'est carrément différent l'un et l'autre. On vit en parallèle. Alors, la vie juive essaie de lier les deux parallèles, alors là aussi c'est un sujet, mais la Kabbale, elle explique quelque part la profondeur de chaque chose, comment les choses, il va beaucoup plus loin. Ça veut dire que ce qu'on voit avec nos yeux, il y a quelque chose, une autre profondeur. Il y a, c'est vrai que je fais mes choses au niveau matériel, mais il y a une autre réalité que je ne suis pas au courant. Et c'est ça la Kabbale qui nous révèle, en tout cas, elle nous révèle un petit peu ou nous révèle plus. Et de toute façon, plus qu'on s'approfondit, plus qu'on découvre. Mais on vit dans un monde, il y a des gens qui peuvent vivre et ignorer qu'il y a un monde dans un autre monde, il y a une autre réalité dans notre monde. Et le judaïsme, elle révèle les liens entre les profonds et les profanes, et entre les sacrés et les profanes aussi. Et donc, on vit dans deux vies parallèles, et pourtant, c'est la même vie dans le même endroit. Donc, alors, pour revenir à ce grand jour, Rabbi, c'est Hiloula, donc ce jour de décès de ce Rabbi, il a demandé qu'on le considère comme un jour de fête. Et c'est comme ça qu'on fait partout. Ça devient un jour de fête, un jour de décès, et pourtant un jour de fête. Parce que selon lui, il y a une profondeur qu'on ne voit pas dans les décès, dans d'autres choses que lui il a vues, et puisqu'il voulait que les gens participent à ces notions que lui il a vues et les autres ils n'ont pas vues. Donc il a demandé de participer. Et effectivement, on participe de différentes manières. Dans notre génération, le rabbi, il a fait de cette fête, en fait c'était déjà dans la génération d'avant, en Amérique déjà, mais aujourd'hui c'est devenu quelque chose qu'on a fait partout dans le monde, les jours de l'Agba Omer, c'est cette manifestation qui peut-être ressemble un petit peu au 1er mai, mais c'est carrément différent, c'est une manifestation qu'on montre avec fierté notre judaïsme, et on se base sur des photos, des messages juifs. On explique pourquoi. On ne va pas arriver à là aujourd'hui. Le jour de l'Agba, comme on a dit tout à l'heure, c'est un jour matériel d'un côté, spirituel de l'autre côté. C'est lui qui lie les deux notions matérielles et spirituelles. Et puisque, comme il est marqué dans le livre Hayom Yom, c'est le premier livre que le Rabbi a imprimé, il y a des mots pour chaque jour. Il y a une idée pour chaque jour. Et pour l'Agba Omer, il est marqué comme ça, que pour le deuxième rabbi de Chabad, ce qu'on appelle le Mittel Rebbe, l'Admor HaEmtzei, le deuxième rabbi de Chabad, l'Agba Omer était parmi les jours les plus remarquables. C'était parmi les jours les plus remarquables. Je cherche le mot, il a fait cette fête dehors, où il y avait beaucoup de monde, il y avait la fête, mais on a vu des miracles ce jour, que toute l'année on a entendu ces miracles. Donc c'est un jour de miracles. Pourquoi c'est un jour de miracles? Il y a le temps ne nous laisse pas parler de ça, mais justement, comme on a dit tout à l'heure, qu'on vit une vie parallèle. Il y a deux réalités de choses. Il y a la réalité à nous, très matérielle, et il y a une autre réalité, l'autre spirituelle. Et ces jours, on met cette réalité en avance, cette réalité qui nous montre, qui nous donne quelque part la possibilité de goûter d'une autre réalité dans notre réalité, une autre réalité profonde qui influence notre vie. Juste pour dire, sans expliquer, parce que le temps, il ne reste pas beaucoup de temps, mais l'idée c'est que chez notre rabbi, le rabbi de Lubavitch, on a vu justement beaucoup de miracles le jour de l'Akba, surtout au niveau des enfants, les gens qui n'ont pas pu avoir des enfants. Et le jour de l'Akba Omer, il y avait des gens qui sont venus de partout dans le monde, et ils ont entendu de parler et d'avoir une bénédiction du Rabbi pour ce que peut-être toute l'année, ce n'était pas aussi fort que ça. Mais le jour de l'Akba Omer, il y est, on a vu beaucoup de gens qui, après des années, ils n'ont pas pu avoir des enfants, et les médecins, ils n'ont pas donné la réponse à leurs besoins, ils n'ont pas trouvé de solution. D'un coup, après être chez le rabbi, il y avait un changement. Moi, personnellement, je me rappelle deux cas qui en étaient un petit peu témoins. C'était dans l'année 88. Que ma mère, elle a participé un petit peu à cette idée. Mais justement, ils sont venus d'Israël, un couple au bout de, il me semble, 17 ou 18 ans, de ne pas avoir des enfants. Un autre couple, c'était que 10 ans, mais quand même c'est non. Ils ont parlé, ils ont demandé la bénédiction au rabbi, et l'année d'après, ils ont eu les deux couples, deux enfants. En tout cas, le jour de l'Akba Omer, si on résume un petit peu ce qu'on vient de dire, on vit dans un monde matériel où, pour chaque chose, chaque problème, on trouve des solutions matérielles. À côté de ça, il y a aussi des choses spirituelles, des solutions spirituelles pour les problèmes matériels. Mais normalement, on vit dans un monde matériel, donc les solutions matérielles, on trouve dans les problèmes, dans l'idée matérielle. Et dans notre parasha, il est marqué qu'il y a un lien entre matériel et spirituel. Alors ça dépend des périodes, ça dépend de beaucoup de choses. Et là, on a vu qu'il y a un jour dans l'année qui est propice pour cette idée, même si que c'est vrai pour toute l'année, mais quelque part, cette année, il a cette force de lier spirituel et matériel avec la personnalité de ce jour qui lie le matériel et spirituel. En tout cas, l'idée, comme on dit en français, « Aide-toi et le ciel t'aidera », l'homme, il doit travailler sur les deux notions, matérielles et spirituelles. Aujourd'hui, plus que jamais, on voit que se renforcer au niveau spirituel, c'est aussi renforcer au niveau matériel. Puisqu'on vient de ces jours, de ces grands jours, de l'Akba Omer, on est dans la paracha des bénédictions, que Hachem vous bénisse tous, que vous voyez que des bonnes choses, que de la joie, que des choses positives. Merci et à la semaine prochaine.